19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Les informés, c'est parti, vous le savez, comme chaque soir, durant une heure, nous sommes ensemble jusqu'à 20h et jusqu'à 20h, et bien au sommaire de cette émission, nous allons parler de plusieurs sujets qui ont retenu notre attention aujourd'hui, de la réforme constitutionnelle, puisque LFI commence à tacler Emmanuel Macron, le chef de l'État, en parlant de lui que c'était des caprices de monarque. Et bien on en parlera, ça commence à faire débat, justement. Ensuite, nous parlerons aussi également de la retraite complémentaire. Syndicats et patronat se disent tout simplement, vous savez quoi ? Eh bien, prêt à une revalorisation de 4,9% avant la signature d'un accord. On en parlera. Ça commence à parler aussi de cette mobilisation du 13 octobre. Il y a une colère qui est énorme dans le pays. Oui, elle est palpable, affirme la secrétaire générale de la CGT. Eh bien, on en parlera tout à l'heure, y compris vous, au 01 53 48 3000. Une invitée aussi qui sera avec nous dans une poignée de minutes. Justement, elle nous parlera de son action humanitaire, de son engagement, notamment en direction du Maroc, mais pas que, puisque elle œuvre dans la solidarité et particulièrement dans la solidarité alimentaire. Elle s'appelle Souad Esbati. Elle sera avec nous dans quelques secondes. Les informés, c'est tout de suite, c'est maintenant et plus que jamais en toute liberté d'expression. C'est parti.
Les informés. L'interview.
L'interview du jour, vous le savez, on démarre cette émission avec l'association Marhaba. Et l'association, justement, elle est incarnée, dirigée par sa présidente, Souad Esbati. Bonjour Souad. Bonjour Madame la Présidente. Bonjour. Vous savez que j'ai une surprise pour vous, hein. Quelqu'un que vous connaissez très bien dans le studio. Il va vous dire bonjour, tiens, regardez.
Bonjour Souad.
On va allumer son micro. Oui, vous avez reconnu ?
Non, du tout.
Vous n'avez pas reconnu ? Vous n'avez pas reconnu la voix ? Attendez, non, le micro n'était pas ouvert. Allez-y, dites-le.
Bonjour Souad.
Alors, tu peux répéter ?
Bonjour Souad.
Vous n'avez pas reconnu l'intonation ? L'intonation ?
C'est l'émotion, c'est pour ça.
C'est l'émotion.
Peut-être, sûrement, exactement.
Ça vous dit rien ? Toujours rien ?
Non.
L'invité surprise vous dit rien ?
Georges Coulet.
Non.
Ouais. Non. Ça commence par un R à son prénom. Ça vous dit quelque chose ?
Ah, d'accord. Ben oui, bien sûr. Il est venu à l'inauguration même.
Ben oui, Raïd Chaibi.
Ah,
oui,
quand même.
Ben oui. Vous avez envie de lui dire un petit mot ?
Ça va et toi ?
Bonjour Raïd, ouais. Ça va ?
Très bien, très bien.
Raïd, qu'on retrouve dans une poignée de minutes pour les informer le débat. Dites-moi, l'association Marhaba, justement, on disait que c'était une association de solidarité alimentaire. Vous pouvez nous en dire quelques mots, Madame la Présidente, justement ?
Oui, tout à fait. En fait, c'est une association qui propose une épicerie sociale et solidaire à Saint-Denis au Grand Centre-Ville pour des personnes qui sont en précarité, donc qui viennent bénéficier de denrées alimentaires à très bas prix, avec des activités d'insertion sociale et professionnelle pour les accompagner. Et également, très ancrée également dans l'humanitaire, plus précisément au Maroc, où on a fait un projet de coopération avec la ville de Saint-Denis, où le maire de Saint-Denis, sa délégation, s'est déplacée au mois de juillet, en direction de Moulay Drizzahone, au Maroc, pour un projet de coopération de patrimonial et culturel. Et puis dernièrement, on a fait envoyer un convoi rempli de produits médicaux, des vêtements, du matériel pour les sinistrés suite au tremblement de terre qui s'est passé vers Taloudant et les environs.
Au Maroc, donc ça se passait au Maroc, effectivement, précisément. Vous avez inauguré donc un tout nouveau local, justement. Ce local est dédié à quoi, précisément, dans le cadre de cette inauguration auquel assistait notre ami, débatteur Raïd Chaibi, justement.
Oui. Exactement. Donc l'inauguration s'est effectuée, enfin, elle a été faite le lundi 25 septembre à Saint-Denis, au Grand Centre-Ville, en présence du sous-préfet, du maire de Saint-Denis et pratiquement mes partenaires. Et c'était l'ouverture de l'épicerie sociale et solidaire au Grand Centre-Ville. Donc tout ce qui concerne, comme je le disais, l'alimentaire et les activités.
Vous confirmez ? C'était un grand moment. C'est
oui,
ça, Raïd Chaibi ?
Je confirme.
Oui, vous confirmez. Souad Esbati, oui. Justement, vous, la présidente, on connaît vos actions, on connaît aussi le travail, évidemment, colossal hein, sur lequel vous œuvrez. Oui. Prochainement, notamment, vous attend d'autres événements sur la question solidaire.
Question solidaire, on a des projets de tout ce qui est marché de Noël. On va proposer tout ce qui est dans l'alimentaire pour les gens, pour les sensibiliser sur savoir manger sainement et de façon économique, écologique, donc tout ce qui est gaspillage alimentaire. Il faut sensibiliser justement un maximum les habitants, les Dionysiens et Dionysiennes sur cette question de gaspillage alimentaire.
Justement, en parlant de gaspillage alimentaire, Madame la Présidente, ce local tout nouveau inauguré sur le département du 93, il s'adresse à qui ? Quel est son public précisément ? Quand on voit aujourd'hui, évidemment, l'alerte hein, lancée par, par les Restos du Cœur qui disent d'ailleurs, ils sont obligés de refuser tellement, évidemment, il y a cette inondation récurrente.
Tout à fait. Alors, il faut savoir que la ville de Saint-Denis a proposé un réseau d'épiceries sociales et solidaires, donc 6 qui sont inaugurés. Il y en a un autre qui sera inauguré demain à la Plaine Saint-Denis, donc il y en aura d'autres. Et chacun a son secteur. Donc moi, je gère le grand centre-ville et d'autres géreront exactement leur quartier. C'est vrai que je rejoins un peu ce qu'avaient dit les Restos du Cœur sur l'aide, parce qu'on a vraiment beaucoup de personnes en grande précarité, un afflux, et on a du mal justement à remplir les rayons, à avoir des subventions. Ouais. Donc malheureusement, on est obligé de refuser des familles qui sont vraiment dans le besoin.
Ouais, refuser des familles qui sont dans le besoin, c'est terrible hein, quand même.
C'est
terrible d'entendre ça.
Ouais.
C'est terrible.
Soit on refuse, soit on diminue les denrées alimentaires. Mais le problème, c'est que même dans les grandes surfaces, ils ne font plus de donations de denrées alimentaires parce qu'eux préfèrent garder leurs denrées alimentaires, faire eux-mêmes leurs colis anti-gaspi et les vendre en grande surface.
Donc, ça confirme une chose, ça veut dire que les gens sont vraiment effectivement aujourd'hui dans ce désarroi, c'est-à-dire dans cette...
Hein,
on est d'accord, ça veut dire que ça confirme de nouveau que le pouvoir d'achat et l'inflation ont frappé de plein fouet effectivement les habitants des quartiers populaires notamment.
Exactement. C'est pas maintenant, c'est pas que l'alimentaire, il y a aussi l'hygiène, hein, la précarité, tout ce qui est hygiène, prendre soin de soi. Donc des fois, on est obligé de réduire les produits d'hygiène pour pouvoir se nourrir difficilement. Quoi.
Dites-moi, Madame la Présidente Souad Esbati, justement, une question qui me taraude un peu là, l'esprit quand je vous écoute vraiment en direct, et ça me surprend pas du tout, et ça me désole d'ailleurs, Madame la Présidente, ce que j'entends. Mais sur le département du 93, est-ce que vous aujourd'hui, votre regard est de se dire plutôt que le département est en train de s'appauvrir de plus en plus ? Est-ce qu'on n'est pas en train de sombrer dans une misère que le département n'a jamais connue ?
C'est vrai qu'en côtoyant les familles en précarité et l'augmentation des demandes d'inscription, je vois que ça commence à s'accroître, et c'est vraiment une question qu'il faudrait... mettre sur la table, parce que ça fait vraiment peur, et il faut trouver des solutions, parce qu'au bout d'un moment ça va dégénérer. Et nous, par exemple, en été, on était obligé de refuser beaucoup de familles parce que les Restos du Cœur et d'autres structures sont fermées, donc on était obligé de refuser toutes les personnes qui venaient. Mais c'est vrai que ça commence à se poser cette question-là, et c'est vraiment alarmant, et ça fait peur. Et nous structure de l'aide alimentaire, on est vraiment embarrassés pour leur dire les refuser, et on n'a pas de solution. Donc il faut vraiment que l'État et le gouvernement puissent nous accompagner, surtout financièrement, sur les colis alimentaires et les réseaux d'épicerie solidaire. C'est un soulagement pour les familles.
Qu'est-ce que vous avez envie de livrer comme message,
qu'on a besoin d'être écouté. Personnellement, si je parle pour mon cas, ça fait 2 ans et demi que je suis bénévole dans cette structure, et je commence à me poser la question. Au bout d'un moment, il faut peut-être qu'on pense aussi à nous, parce que le moral commence à s'épuiser, et on essaye de donner le maximum. Mais si on n'a pas en contrepartie une aide pour accompagner ces gens en précarité, ça risque d'être... dans une détresse, quoi. C'est vraiment fatigant, usant, mais on garde espoir. Il y a la ville de Saint-Denis qui nous aide, qui nous accompagne, qui essaye de trouver des subventions, mais c'est dur pour eux comme c'est dur pour nous. Mais on compte énormément sur l'État pour qu'ils puissent nous aider comme ils ont aidé les autres structures, sans citer les noms.
Merci Madame la Présidente, merci Souad Esbati, justement, vous qui dirigez l'association Marhaba sur le département du 93. Merci à vous, et bon courage, plein de bonnes choses d'ailleurs, il va falloir. Tiens, je voudrais donner la parole juste pour vous entendre, parce que c'est terrible ce qu'on entend là, effectivement. Quel est votre avis ? Merci Souad Esbati. Raid JB, ensuite je distribue la parole. Bonjour d'abord.
Bonjour et à ceux qui nous écoutent. Tout d'abord, je voudrais vraiment féliciter ce que fait Souad, parce que j'ai eu l'occasion d'assister à l'inauguration de ce local que son association a transformé de A à Z. Ils ont fait un travail absolument admirable pour transformer un local en un lieu
d'ouverture. Votre expression, c'est titanesque.
Exactement, titanesque. Je pense que ce serait même le bon mot. Et c'est vrai que Swat fait partie, comme d'ailleurs beaucoup de personnes qui sont engagées dans l'économie sociale et solidaire. Elle fait partie de ces premiers cordées de la solidarité qu'on voit pas forcément, mais qui accomplissent et qui abattent un boulot absolument titanesque, pour reprendre votre expression. Donc félicitations à elle, et elle a besoin d'être soutenue, ouais, aidée, comme d'ailleurs bon nombre d'acteurs de l'économie sociale et solidaire.
Gamal Abina, qu'est-ce qu'on peut dire effectivement aujourd'hui, ces habitants des quartiers populaires? Elle dit qu'elle est obligée de refuser, que la situation est gravissime, qu'il y a une grande cette inquiétude, et puis surtout l'horizon. Il y a plus d'indicateurs. On n'a plus d'ailleurs d'indicateurs ni d'éléments sur lesquels on peut se raccrocher aujourd'hui. Gamal Abina.
Tout simplement parce qu'il fait référence au Resto du Cœur aussi, c'est que ça avait été fondé à l'époque par Coluche dans l'espoir qu'on n'ait plus besoin de ces organisations, et non seulement on en a besoin, mais c'est de plus en plus criant. Donc c'est vrai que la paupérisation massive, l'inflation considérable, le surcoût de la vie, tout est cher aujourd'hui en France, malheureusement ça va pas dans le sens de l'apaisement, les tensions sociales, tout ça, font que ce genre de, même d'établissement qui est là charitable, ils sont là pour donner, ils sont pas là pour ils prennent rien, et bien même eux sont en difficulté, ce qui inquiète vraiment sur la réalité de la dégradation de l'économie française en général, et particulièrement des quartiers populaires qui sont évidemment le plus durablement et plus durement touchés, parce que c'est déjà au départ des gens qui sont dans une situation de précarité dès le démarrage de leur vie. Donc.
Abdeslam Itach.
Je rejoins l'avis de Gamal, et en effet, c'est heureusement que ces associations sont là pour aider ces familles en difficulté, ces personnes à la rue, mais en effet, elles pallient un manque de l'État qui dure depuis des années et des années. Et ce qui n'est pas normal, c'est que l'on est toujours encore à faire recours à ces associations-là qui sont dans la difficulté. C'est un vrai crève-cœur, hein, pour des dirigeants associatifs qui doivent choisir à qui ils doivent prêter main forte et pour voir justement aux besoins d'une famille pour se nourrir. Donc oui, il y a une vraie difficulté, il y a une vraie détresse, mais moi j'ai envie de dire que voilà, que les pouvoirs publics ont leur responsabilité là-dedans, et que les gouvernements se suivent, se succèdent, se remplacent, mais que la précarité, elle, persiste.
Pierre-Henri. Oui, Pierre-Henri.
J'interviens sur le 93 avec France Fraternité. Il ne faut pas dire que l'État ne met aucun moyen.
C'est faux.
Il y a 200 000 places d'hébergement d'urgence. Ça coûte près de
ça coûte près de
2 milliards d'euros. Oui. Simplement, c'est une politique qui n'est pas cohérente, parce que dans les places d'hébergement, il y a 60% de personnes qui sont en situation irrégulière et que le gouvernement ne souhaite pas pour l'instant régulariser. Et donc, moi je viens par exemple de porter une affaire devant le défenseur des droits sur la commune de Drancy, où la ville impose aux personnes qui sont hébergées à titre gratuit sur la ville de payer 7,80 €, oui, le repas à la cantine. C'est-à-dire,
ville que vous connaissez d'ailleurs.
C'est gratuit pour les habitants de Drancy, mais pour les personnes qui sont en situation de précarité, qui sont hébergées à titre gratuit, on leur fait...
Je dois lancer la pause, ouais.
On leur impose un repas à 7,80 €. Vous imaginez ce que ça veut dire pour des familles qui ont 600 € de revenus mensuels, sont assises dessus.
C'est
scandaleux. Et donc, je viens de saisir le défenseur des droits sur cette affaire.
Et vous avez eu raison de le saisir, effectivement. Marjorie Keters.
Oui, alors...
Évidemment, la situation aujourd'hui,
merci,
qui est alarmante.
Tout à fait. Merci Souad pour ce témoignage et pour ce que vous faites. Et je vais reprendre vos propos concernant les 200 000 hébergements d'urgence. Déjà, une question, comment se fait-il qu'il y ait des gens à la rue dans l'un des pays les plus riches du monde? Donc ça, c'est la première question.
C'est une vieille histoire. Hein, ça.
Et la seconde...
C'est Lionel Jospin qui disait
«
personne à la rue ».
Et Emmanuel Macron qui disait « quand il serait présent, il n'y aura plus personne à la rue ».
Il faut peut-être la laisser terminer.
Par rapport à ça, oui. Donc c'est déjà un problème. Et dans le 93, effectivement, il y a un accroissement généralisé de la misère, mais il y a aussi un phénomène de gentrification énorme qui entraîne encore plus d'exclusion et de précarité au sein de notre département. Donc cette question-là, elle peut se poser, et on peut aussi être soutenu par des associations de locataires, je pense notamment au DAL, et on peut imaginer une réquisition des logements vides.
De exactement. Même, voilà. Ouais. Allez, on continue d'en parler, et justement, on va parler de la réforme constitutionnelle, on va parler des retraites, on va parler de mobilisation du 13 octobre, excusez-moi. Tout de suite, avec tous ces débatteurs influenceurs, fait rarissime, on est 5 ce soir, 5 débatteurs, ce qui n'arrive jamais. Ouais. Mais bon, voilà, parfois il y a des petites exceptions comme ça qui viennent se glisser.
C'est parce qu'on vous aime bien, Adil. Voilà.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
C'est parti, vous le savez, les informés, c'est le face-à-face, chers amis.
Les informés. Les informés. Le face-à-face.
Face-à-face se provoque avec plusieurs personnalités ici, des débatteurs, influenceurs, qui vont confronter leur point de vue sur ce premier sujet. Macron veut augmenter son pouvoir, a dénoncé Jean-Luc Mélenchon. Mais surtout, ce qu'on entend, c'est que la réforme constitutionnelle, elle fait jaser, elle fait parler, mais surtout, elle est fille qui dénonce les caprices de monarque de Macron. Clochette, ouh là 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 là, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Eh bien, pour en parler, vous savez quoi, tout ce beau plateau, je vais commencer par la seule femme qui est avec nous, Marjorie Ketters, qui est professeure. Bonjour Marjorie. Bonjour Madame la prof.
Bonjour, bonjour.
À ses côtés, le président de France Fraternité. Bonjour Monsieur le Président.
Bonjour et bonjour à Marseille.
Hein, Marseille, pourquoi? Parce qu'ils ont
2-0. Parce qu'ils gagnent. C'est pas comme le PSG.
Ouais, le PSG s'est pris la raclée.
Ah, ouais.
Ah, c'est là, un chaos, hein.
Là, Marseille, pour le PSG, 2-0.
Hein. Ah là 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 là. Le président de l'association de la coopération franco-tunisienne, Raïd Chaibi, bonjour.
Bonsoir.
Le porte-parole du MDC, bonjour, Gamal Abina.
Bonjour.
Europe Écologie Les Verts, pour le 95, c'est Abdeslam Itaj, bonjour.
Bonjour.
Que du beau monde. Allez, je donne la parole à la prof. Tiens, on va écouter la prof. Caprice de monarque alors?
Oui, je le pense.
Bah, elle démarre fort.
Seriez-vous LFI?
Non, mais c'est bien, vous avez raison. C'est la liberté d'expression. Non, mais je ne m'attendais pas à ça. Oui, c'était caprice de monarque, j'adore. Elle a dit tout pourquoi.
Alors, il y en a un autre à LFI. Hein.
Et du coup, j'argumente. Donc, je ne suis pas à LFI, mais à PEPS, le mouvement pour une écologie populaire et sociale. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que cette 5e République, elle a été faite pour répondre aux besoins d'un général. C'est quand même une
république. Oh là là, clochette, ça démarre fort. Oh là là.
Je suis un peu d'accord là-dessus.
Qu'est-ce que j'ai invité une prof pour aller dénoncer tout ça?
Elle a raison.
C'est pas une dénonciation, c'est un constat en fait.
Ouais, historique.
C'est ça, et donc c'est un constat historique. Et donc aujourd'hui, on peut voir que la 5e République ne correspond plus aux besoins du moment. D'ailleurs, on voit la déconnexion des institutions avec la population. Donc je suis pas la seule à le penser. D'ailleurs, Dominique Rousseau cette semaine a écrit une tribune dans Le Monde pour dire que si on changeait pas la Constitution, on risquait une révolution.
Oui, oui.
Donc voilà.
Et on aime bien les révolutions, franchement.
Pierre-Henri, vous en pensez quoi alors que justement, elle y va fort, Marjorie, hein, Ketters?
Oui, elle y va fort, mais je voudrais qu'on revienne sur les propositions qui ont été formulées par Emmanuel Macron
sur la Constitution, la réforme.
Elles sont au nombre de 4, et vous allez voir que c'est pas vraiment une révolution. La première, c'est l'extension du champ d'action du référendum, parce que on sait que selon l'article 11,
au moins un qui rééquilibre le débat.
Oui, mais je prépare mes émissions.
Oui,
moi.
Oui. Bon, vous écoutez,
hein,
vous avez raison.
Mon cher Adil, voilà. Et donc, extension du champ d'action du référendum, au-delà de la politique sociale et économique. Donc, en gros, des sujets comme l'immigration pourraient être mis sur la table, et je pense, moi, que c'est une très mauvaise idée. Deuxième proposition, accessibilité du RIP, vous savez, du référendum d'initiative populaire, parce qu'aujourd'hui, il faut un dixième du corps électoral, c'est-à-dire 4,7 millions d'électeurs, et un cinquième du corps parlementaire, c'est-à-dire 185 parlementaires pour arriver à ça, et donc c'est pas possible. Absolument. Et ça, évidemment, élargir le champ du référendum, moi, j'y suis personnellement favorable.
Qu'est-ce que vous répondez à Jean-Luc Mélenchon qui fait un tweet, il dit sur la Constitution, Macron veut augmenter augmenter son pouvoir pour contourner le Parlement et mettre un verrou au référendum d'initiative populaire. Voilà.
Oui, enfin,
il dit face à la crise démocratique, oui. Il nous faut une assemblée constituante.
Oui, enfin,
voilà, en gros,
oui, enfin,
on
bon.
Contourne le truc et c'est un monarque avec ses caprices.
Oui, bah, et il y en a un autre à la tête de LFI avec ses propres caprices et sa propre cour. Donc, franchement, on va laisser ça de côté.
Ça énerve le Marjorie, hein, votre voisine.
Et d'ailleurs, ouais, d'ailleurs sa propre cour, je sais pas, il n'y a pas un documentaire sur la reine mère. Sur la reine mère, ouais.
Ce soir, complément d'enquête.
Ouais, complément d'enquête.
C'est ce soir.
Hein. Ouais.
C'est de la pub, là.
Je dis ça. Ouais. Et puis enfin, quatrième proposition, c'est l'accès, c'est l'inscription dans la constitution du droit à l'IVG. Et donc, évidemment, cette proposition-là, elle est faite aussi pour séparer les droites extrêmes. Voilà. Et oui, mais pour séparer aussi, oui, parce que je pense que entre Reconquête et le Rassemblement National, ils vont pas être totalement d'accord sur la tambouille. Donc voilà. Bon. Écoutez, moi je pense effectivement qu'il faut faire évoluer la Constitution.
Oui.
Voilà, et que ces propositions-là, pour aboutir, je le rappelle aussi, hein, il faut les 3/5 du Parlement.
Oui. C'est l'Assemblée nationale.
Du Parlement. Oui. Et donc quand je dis des parlements, du Sénat et de l'Assemblée nationale. Donc, il va couler de l'eau sous les ponts.
Un peu, oui.
Voilà.
Raël Chebi, qu'est-ce qui vous arrive? Vous souriez depuis tout à l'heure. Ça vous fait rire, hein?
Pierre-Henri, c'est normal. Pierre-Henri, qui me fait rire.
Mais Pierre-Henri, on le connaît. C'est évidemment toute l'éloquence. Hein.
Non, mais on peut dire l'outrance parfois.
Bon. Il est bon.
Aussi.
Ouais.
Il a dû gagner tous les concours, lui. Il les a éclatés, lui.
Non, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit parce qu'il a très bien présenté les objectifs de cette initiative du président Macron. Que LFI critique cette initiative, bon, de toute façon, tout ce que fait Macron, LFI le critique, donc ouais. au moins ça c'est dit.
Ça c'est vrai.
Ensuite, sur certaines réformes qui sont nécessaires dans cette constitution, j'y suis absolument favorable, parce qu'il y a des points dans cette constitution, des dispositions de cette constitution qui nécessitent à ce qu'on évolue. Pierre-Henri l'a très bien dit tout à l'heure par rapport au référendum d'initiative partagée. C'est un outil qui a été mis en place en 2008, mais qui est tellement compliqué qu'en fait, personne ne l'utilise. Donc c'est un peu parfois aussi une spécialité française de mettre en place des mécanismes dont on sait pertinemment qu'ils ne marcheront jamais, tellement c'est compliqué. Donc pour le coup, c'est pas quelque chose qui me choque plus que ça. Ensuite, sur élargir le champ des sujets pour les référendums, j'y suis aussi favorable, parce que c'est bien aussi d'avoir l'avis du peuple sur des sujets de société, tant qu'on ne va pas à l'excès non plus. Et ensuite, sur je sais plus c'était quoi l'autre sujet, l'IVG, je trouve que symboliquement, effectivement, ce serait quelque chose de fort, d'autant que l'égalité femmes-hommes notamment a été placée comme rang de priorité du quinquennat du président de la République. Et je profite de cette occasion, cher Adil, puisque l'IVG est à l'initiative de Simone Veil, bien sûr, qui est rentrée au Panthéon, et de Gisèle Halimi, qui a commencé le combat 3-4 années plus tôt, même un peu plus. Profiter pour dire que si on souhaite mettre l'IVG dans la Constitution, il ne faut pas oublier celle, au pluriel, qui ont été à l'initiative, et notamment Gisèle Halimi, dont j'espère un jour qu'elle rentrera au Panthéon.
Exact. Gamal Abinard,
bravo.
Ouais. Gamal Abinard.
Bah, simplement, c'est des réformettes, c'est pas des
caprices de monarque ou pas?
Non,
c'est ça qu'il faut dire.
Non, mais ça, on dit ça à Mitterrand, dès qu'il y a un homme qui est au pouvoir et que ça dure plus de 5 ans, on dit ça, mais c'est juste parce qu'on l'aime pas. Mmh. En réalité, moi, Macron, j'ai une sympathie pour lui sur la politique internationale. J'ai pas de sympathie pour lui sur la nationale, je le trouve un peu light. Je trouve qu'il est en rupture avec le peuple, je trouve qu'il est vraiment. C'est un peu l'autocratie, il faut reconnaître qu'un peu comme Mitterrand à l'époque, on prend des décisions, on fait ce qu'on veut, on n'écoute pas le peuple, on est très impopulaire, et puis à la fin, quand on s'en va. On espère laisser une bonne image. Et la problématique aujourd'hui, c'est que c'est une problématique de démocratie. Il parle de démocratie dans ses réformes, mais c'est des démocraties molles. En vérité, ce qu'avait fait De Gaulle, qui était effectivement un militaire, faut le rappeler, ça reste un général qui arrive aux commandes sur un coup de force de généraux. Donc on est vraiment dans une situation de crise très aggravée. Et il confisque les pouvoirs. Il retire le Parlement de ses prérogatives, il les confisque. Macron, il a accéléré le gaullisme en pire. Il a confisqué les pouvoirs du Parlement avec le 49-3, qui est un système qu'il aurait dû, dans sa réforme, abroger. Ça, c'est une chose qui n'est pas normale déjà. Parce que le 49-3, c'est imposé par par le haut des décisions qui ne sont pas discutées à l'Assemblée. Aucune loi récente et importante n'a été discutée. Donc il y a une confiscation des pleins pouvoirs de la part de Macron que je peux là-dessus lui reprocher, tout comme à sa ministre qui ne dit jamais la vérité. Elle dit on ne va pas utiliser 49.3, mais le fait derrière. Donc ça, c'est une chose qui ne fonctionne pas. Parce que quand on interroge le peuple, il est choqué. Ils ont parlé de RIP, de référence d'initiative populaire ou partagée. Bon, partagée, c'est une arnaque. C'est le partage entre l'Assemblée et 4,5 millions de personnes. Impossible à réunir. Ils ont très bien fait leur coup. Ils savaient que c'était un quorum qui n'était pas possible à réunir. Donc confiscation du pouvoir. Le RIP était intéressant dans la mesure où on l'encadrait avec certaines choses, des restrictions. Quand c'est les choses, par exemple, qui sont liées à du racisme ou la haine de l'immigré, bon, effectivement, il faut peut-être se calmer. Mais sur des questions essentielles de société, on aurait dû convoquer le peuple. Sur la question de la dette, on devrait le convoquer. Sur la question du contrôle des prix, on devrait le convoquer. Et ça, ça n'est pas fait. Et moi, je dis que par rapport à d'autres pays comme la Suisse, qui sont un peu plus des exemples, la confiscation du pouvoir, cette façon de dire le peuple n'est pas assez mature pour lui laisser des décisions essentielles, commence à poser problème. Donc la France est vue de l'étranger avec beaucoup d'interrogations. C'est un laboratoire de réussite au départ. La Révolution française, c'est une vraie réussite. C'est la première fois qu'on donnait le pouvoir au peuple. Et aujourd'hui, on est en régression en termes révolutionnaires. Pourquoi ? Parce que la 5e République, j'ai pas de problème avec la 5e République, mais le fait d'avoir un hyper pouvoir présidentiel sur les questions intérieures, ça n'est pas normal et ça, il faut le questionner. Donc ces réformettes, c'est comme ça qu'on les appelle, ne donneront rien. S'ils voulaient quelque chose de sérieux, ils devraient imposer systématiquement la possibilité de faire un référendum révocatoire.
Donc là, vous êtes en train de nous laisser entendre qu'en gros, c'est une opération de com' du chef de l'État.
C'est plus que ça. C'est séduire des gens, et Pierre-Henri l'a très bien dit, sur la question, par exemple, l'UVG, bon, c'est déjà installé, hein. Ça, c'est pour flinguer l'extrême droite, parce qu'il va falloir discuter à l'intérieur. C'est vrai que c'est la stratégie politique, mais dans le fond, moi, j'allais dire simplement, j'aurais aimé entendre parler d'un référendum révocatoire pour des politiques qui se comportent mal. Là, ce serait intéressant. Parce que ça mettrait le politique sous le pouvoir du peuple et pas le contraire. Aujourd'hui, on est sous le pouvoir du politique.
Abdeslam Itas.
Alors, aujourd'hui, si vous voulez, sur le référendum, vous savez qu'on peut traiter que des sujets liés à l'organisation des pouvoirs publics, des réformes économico-sociales et sur les services publics. Et Emmanuel Macron voudrait élargir le champ des discussions sur ces sujets-là, où l'extrême droite s'est tout de suite engouffrée, puisqu'elle parle de référendum sur l'immigration. Et vous savez, Gamal parlait de la Suisse, qui est un exemple de référendum, mais de tout azimut, puisqu'ils avaient voté il y a quelques années l'interdiction des minarets. Donc, vous voyez, c'est aussi une façon pour le gouvernement de se laver les mains et de dire, finalement, vous savez, c'est pas nous qui avons décidé de ça, nous avons donné la parole au peuple et il en a décidé ainsi de l'immigration. Vous voyez, la malice, elle est là. On avait un système qui était compliqué, en effet, avec Pierre-Henri en a parlé, 4 870 000 personnes, soit 10% des électeurs, plus 3/5 des deux chambres, pour justement modifier la Constitution. Vous voyez, autrefois, il y avait de la contrainte et c'était difficile de pouvoir installer un référendum d'initiative partagée. Aujourd'hui, on cherche à le faciliter. Pour quelles raisons ? Pour traiter de sujets qui n'ont pas été traités jusqu'à ce jour sur ce référendum. Moi, je dis qu'il faut absolument faire attention à tout ça. Et je parlais de malice tout à l'heure. Moi, je vais vous en donner une de malice d'Emmanuel Macron, puisque le président ne souhaite pas remettre en cause l'une des limites du RIP, l'abrogation d'une loi promulguée depuis moins d'un an. De quelle loi parle-t-il ? Eh bien, des retraites. Et il voudrait surtout pas que l'on touche à ce qu'il a tricoté et ce qu'il a pris de la poche des travailleurs.
Rapidement.
Moi, très rapidement. J'ai envie de dire simplement, j'aurais aimé entendre, par exemple, le fait, parce que je suis contre la guerre comme beaucoup de monde, par exemple, qu'on interroge le peuple sur la question ukrainienne. Est-ce que la France doit ou pas s'engager dans ce conflit ?
Trop dangereux.
Mais j'aurais aimé entendre ça, parce que je pense que le peuple, qui a un bon sens, aurait dit, il vaut mieux la négociation, il faut pousser la France à être le pays qui va pousser à la négociation, plutôt que de continuer ce bain de sang.
Ouais. On se retrouve dans une poignée de minutes, vous savez quoi ? Justement, parce qu'il faut qu'on avance, Marjorie, hein, Keter, c'est Pierre-Henri. On a d'autres sujets à traiter, hein, la mobilisation du 13 octobre, ça suscite aussi une colère. Parce qu'il y a cette colère qui existe, elle est là, vous l'avez entendu tout à l'heure avec Swan notamment, qui est énorme dans le pays, affirme la secrétaire générale de la CGT. Et elle a bien raison de le dire, parce que c'est Sophie Binet qui pointe du doigt, effectivement, là, un véritable problème, c'est les salaires. L'inflation, les salaires qui n'ont pas augmenté depuis très longtemps. On en parle, à tout de suite, ne bougez pas, on marque une pause.
Les informés reviennent dans un instant. 19h-20h, Les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Et Les informés, c'est avec Marjorie Keters, Pierre-Henri, avec Raïd Chebi, avec Gamal Abina et enfin avec Abdeslam Itachou. On va parler de ce deuxième sujet, second sujet concernant l'inflation, ce évidemment concernant les salaires qui ne bougent guère et qui stagnent. Nous allons faire grève et manifester pour exiger des augmentations de salaire, explique la patronne syndicale, donc Sophie Binet, qui est donc la toute nouvelle patronne, la secrétaire générale de la CGT. Alors, justement, cette mobilisation du 13 octobre, c'est la colère qui s'annonce dans le pays. On peut le dire, Marjorie Keters.
Oui, tout à fait. Dans la mesure où il y a des étudiants qui n'ont pas forcément à manger tous les jours ou que des gens dorment dans leur voiture, cette colère est légitime, c'est évident. Et donc, nous, on appelle à manifester le 13 octobre, mais aussi le 14 octobre, parce qu'il y a une autre manifestation citoyenne organisée ce jour-là, parce que la colère est légitime et on devrait tous avoir le droit de vivre décemment, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Donc, c'est de pire en pire, oui, dites-moi, ouais. Pierre.
Donc, vous ne serez pas dans votre classe. Le 13 et le 14
c'est le 13, c'est un samedi. Hein.
Ah bon, samedi, d'accord. Voilà. Donc, c'était le week-end.
Ils vont pas perdre d'argent quand même.
Ah, ouais. Bon. Pierre-Henri. Pierre-Henri.
De quoi ?
Colère. La colère. La colère. Bah oui, la colère.
Bah, bien sûr qu'il y a de la colère. Ouais.
Non, mais cette histoire de salaire, c'est vrai.
Mais, oui,
on se pose.
Il y a une chose. D'abord, il y a une augmentation là, qui est annoncée de près de 5% pour les retraités, aussi bien la retraite de la sécurité sociale que la retraite complémentaire.
Et nos aînés, comme toujours. Hein.
Et moi, je trouve ça plutôt bien. Mais le problème, c'est qu'évidemment, il faut que les salaires aussi suivent. Il ne faut pas dire qu'il n'y a pas eu d'augmentation. C'est faux.
Il y a eu
des négociations dans un certain nombre de branches. Je pense, par exemple, à tout le secteur sanitaire et social qui s'est vu revalorisé depuis près de 2 ans. Il y a eu une revalorisation aussi des enseignants. Mais par contre, les travailleurs dans les PME, là, c'est évidemment extrêmement compliqué parce que le rapport de force n'est pas en leur faveur. Et puis, d'autre part, on oublie toujours dans cette histoire près de 3 millions de personnes qui sont chômeurs et qui se prennent la crise en pleine poire. Donc, évidemment que les syndicats auront du monde le 13 et le 14, pour autant.
Vous confirmez qu'il y aura du monde
Je pense qu'il y aura du monde un samedi et un dimanche.
Non,
et puis, en plus, le climat clément, bon, bah, il y aura le plaisir de se retrouver. Après, est-ce que ça va faire bouger une ligne? Je n'en suis pas certain.
Et convaincu.
Est-ce que ça va faire bouger les lignes? Le problème, c'est qu'on n'a pas de contre-pouvoir en ce moment. Mmh. Donc, il n'y a pas de contre-pouvoir ni dans les institutions, ni dans la rue. On voit ça avec.
Ah bon
bien sûr.
Mais je croyais que Écologie, Les Verts, les filles,
je ne suis ni à LFI, ni à Europe
Écologie. Ouais, mais je ne sais pas où vous êtes.
Vous êtes ailleurs. Ça commence à vert et ça finit sur vert.
Vous êtes ailleurs. Comme disait Jobert, il y a 30 à 40 ans.
On est pour le pouvoir par en bas. Oui. Directement.
Par la base. Non, mais je connais pas votre formation, donc je ne demande qu'à connaître. Vous êtes nombreux.
Vous avez donné un élément quand même. Vous avez dit le pouvoir par le bas.
Oui, mais je lui demande si elles sont nombreux. Tu sais, à un moment donné, on disait du PRG, qui se réunissait dans une cabine téléphonique. Donc je demande si ça n'est pas cette cabine téléphonique. Voilà, c'est
ça
tout.
Ça manque de fair play, tout ça.
C'est tout.
Allez, faisons un tour de table. Tiens, Raïd
Chebi. Tu es de rire.
Non, mais c'est Pierre.
Quel manque de fair play en plus de s'attaquer à une femme.
Mais non.
Honte à toi, Pierre. Honte à toi.
Mais non, je veux juste savoir.
Ah oui,
on
avance.
Non, mais
il attaque pas, il titille.
Oui, le poil à gratter. Non, mais c'est une colère qui
vous inquiétez pas pour Marjorie, elle sait se défendre.
Je n'en doute pas, en tout cas, je vous espérais. Non, mais c'est une colère qui est tout à fait compréhensible quand on voit la hausse du prix de l'essence, les salaires qui effectivement n'augmentent pas, les prix
des loyers,
des denrées, les loyers, etc. c'est normal que nous sommes dans une société en pleine ébullition. Alors effectivement, il n'y a pas de contre-pouvoir parce qu'on a un président et un gouvernement qui mènent leur propre politique et qui ne bougent pas d'un iota. Et de l'autre côté, le seul contre-pouvoir, c'est effectivement que la colère s'exprime démocratiquement. Donc c'est pour moi une situation qui ne m'étonne absolument pas.
Gamal Abina, bon. Tout ça, évidemment. À quoi peut-on s'attendre, surtout ? C'est effectivement, c'est ça. Est-ce que l'exécutif fera bouger les lignes ? Est-ce que l'exécutif sera attentif ? Est-ce que l'exécutif, va provoquer un débat au sein de l'Assemblée ? C'est vrai, c'est question.
Ah, vous allez me mettre mal à l'aise. Je vais être d'accord avec Pierre-Henri. C'est embêtant parce que j'aime pas être d'accord avec Pierre-Henri, mais ça arrive. Hein. Plus que de raison pour le coup. Il a raison. Ça bougera des jambes, mais pas des lignes. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Ils vont marcher comme d'habitude. Ça va gueuler comme d'habitude. Ça va peut-être péter un petit peu à la fin. Mmh. Mais une chose est certaine, c'est que ça ne bougera pas parce que, effectivement, depuis des mois et des années maintenant, on a des mouvements sociaux assez conséquents, on a des manifestations violentes, on a eu des émeutes, on a eu toute une succession d'émeutes, gilets jaunes et autres, hein. On a des manifestations multiples de la part des partis d'opposition qui ne sont jamais d'ailleurs été d'accord entre eux. La gauche, oui, en général, mais pas le reste. Hein. Donc, je parle de l'extrême droite parce qu'ils ne peuvent pas être dans le même camp, évidemment. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ben, en réalité, il ne va rien se passer. Il va y avoir une manifestation monstre, on entendra la colère du peuple. Mais il ne se passera rien parce que l'agenda politique de M. Macron n'est pas celui de la population. Il y a un problème chez ce monsieur, c'est qu'il sait qu'il est coincé sur un plan financier, il sait qu'il y a une inflation galopante et qu'il est en train de faire la pire des choses. Il ne peut pas faire autrement, il est coincé, parce qu'on lui demande, à savoir l'augmentation des salaires pour contrer l'inflation. Donc c'est l'inflation des prix par l'inflation des salaires, donc c'est une catastrophe, parce que les prix vont continuer à augmenter à cause des salaires, c'est un cercle vicieux qui est engagé.
C'est vrai.
Donc on va le payer, et il sait que s'il écoute la colère populaire, de toute façon il n'a pas les moyens de satisfaire cette colère en débloquant des budgets qu'il n'a plus. Donc tout cela pour dire que c'est en bon comptable qu'il est, parce qu'il a été formé à la gestion, eh bien il connaît la quadrature du cercle, un pays surendetté, des capitaux qui fondent, des crédits qui risquent de lui être de plus en plus difficiles à obtenir pour financer la dette, en l'occurrence, parce qu'on a des crédits pour la dette aujourd'hui, et l'intérêt de la dette. Et donc tout cela, les gens ne le savent pas. Eux, ils voient qu'ils ne mangent pas, et c'est compréhensible que la colère soit présente. Mais en même temps, ils peuvent pas parler le même langage d'un homme qui, lui, connaît les comptes de l'État et sait qu'il risque d'arriver.
Voilà un éclairage, effectivement, qui nous amène à mieux comprendre la situation.
Et donc, on risque d'arriver à la cessation de paiement. Ouais. Ce que les États-Unis ont frôlé récemment. Donc, cette cessation de paiement, ça veut dire plus d'accès aux crédits internationaux, une dégradation de la note de la France.
Hein.
Oui, on se rapproche de ça. Hein. Dégradation de la note, augmentation de l'intérêt des prêts, et on emprunte sur les marchés internationaux. Donc, c'est très compliqué. C'est une dette qui n'est pas souveraine.
Et puis, l'immobilier qui.
L'immobilier qui est artificiellement haute, mais qui va s'effondrer si jamais ça arrive. Donc tous ces éléments-là font qu'il joue sur des chaudrons ardents. Et c'est en cela que M. Macron ne va pas écouter le peuple parce qu'il sait que le peuple ne peut pas comprendre ce qu'il va lui dire. De toute façon, ça ne l'intéresse pas. Et en même temps, le peuple ne comprendra pas ce qu'il dit Macron parce qu'il souffre.
Pas mal, hein, effectivement. Merci pour ce beau décryptage, je dois dire, Gamal Abina. Abdeslam Itach.
Moi, je pense qu'il ne faut pas insulter le peuple. Je pense qu'il est assez intelligent pour comprendre que.
J'en suis pas sûr.
Qu'on se moque de lui. Et lorsque l'on a justement. Vous savez, moi, je suis dans la fonction publique territoriale. À l'époque de Lionel Jospin, lorsqu'il avait. Nous avait passé aux 35 heures, on a dû subir le gel des salaires pendant des années et des années. Sous Chirac, pendant les deux mandats.
Oh là là.
Sous Sarkozy et sous Hollande.
Donc, les fonctionnaires, voyez, précisément, c'est les fonctionnaires.
Oui, sur les fonctionnaires territoriaux. Et fonctionnaires d'État.
Oui,
donc la difficulté, la notion de service public que ces fonctionnaires ont toujours défendu, ouais. Ont vu leurs revenus fondre comme neige au soleil. Et il est normal que l'on soit révolté lorsque l'on ne vit pas dignement de son salaire. Tout à l'heure, j'entendais parler des personnes qui dorment dans leur voiture. C'est une réalité, c'est un fait. Il suffit d'aller voir pour celles et ceux qui ont eu l'occasion de justement aller faire des maraudes, voir un petit peu la difficulté, la précarité des mamans qui élèvent seules leurs enfants, qui n'arrivent pas à boucler à fin de mois et qui choisissent de ne pas payer le loyer et remplir l'assiette de leurs enfants. Ça, c'est la réalité. Ça c'est le. On est loin justement du dîner, du fameux dîner.
Là, il est concret.
On a invité
vous connaissez
le montant qui a été dépenser, ouais, quelle indignité pendant que les gens crèvent la dalle. Je vous le dis. Voilà, donc le peuple, il a raison de s'indigner, il a raison de se révolter, et c'est vrai qu'on est une société, la société française est une société de révoltés et de révolutionnaires.
On dirait un rouge, il y a un vert et un vert.
Non,
on dirait le marxisme.
On peut s'indigner,
non, mais c'est des verts rouges.
On peut s'indigner,
les verts
tout
rouges.
Ça.
Les verts rouges. Ah,
juste ajouter un truc. Je dis pas que le peuple est bête. Je dis que le peuple peut pas comprendre quand il a faim et votre vie n'a pas d'oreille.
C'est
ce qui se passe au niveau de l'État. Donc,
vous avez remarqué, Pierre-Henri.
Et en même temps, on vit dans un pays capitaliste. Malheureusement, faut être éclair à part les Trente Glorieuses. Le capitalisme ne fait pas de cadeaux aux plus pauvres.
C'est ça que vous avez remarqué.
Le capitalisme, vous pardonnerez juste. Le capitalisme, c'est comme le loto. Pour qu'il y ait un gagnant, faut qu'il y ait 60 millions de perdants.
Enfin, on n'a encore pas fait mieux que le capitalisme pour répartir un certain nombre de richesses.
Qu'est-ce qu'on veut dire, Marjorie?
Juste sur la dette, en 2011, de mémoire, l'Islande a refusé de payer la dette et ils s'en sont beaucoup mieux sortis que la Grèce qui a payé la dette. Et donc, c'est une question de volonté politique.
Non, il faut être très sérieux sur la dette. L'Islande, ce n'est pas la dette que la France a contractée. Il y a les dettes, ce qu'on appelle souveraines, comme le Japon, qui a une dette abyssale mais souveraine, elle appartient aux Japonais. Et les dettes que la France a contractées sont des dettes qui sont sur les marchés internationaux, donc qui sont exigibles. Il n'y a pas de négociation.
On ne remboursera jamais.
Mais moi, je suis pour le gel de la dette, il faut être clair.
Pour le gel de la dette. Pierre-Henri.
Oui, non,
sinon moi je.
Simplement, je remarque que les Verts parlent de tout sauf d'écologie, d'habitude.
Bien sûr. Non, mais alors, ce qui est quand même. Pierre-Henri, tu permettras
de l'émission.
On nous a souvent reproché de parler que d'écologie. On nous a souvent reproché de parler que d'écologie et pas de social. Et maintenant, tu nous inverses.
Faites un peu plus d'écologie.
De toute façon,
il parlait de gazon tout à l'heure.
Vous aurez dit que
il parlait de gazon tout à l'heure, tous les deux. Il parlait de Marseille.
Exactement. L'écologie et l'écologie ne sont pas
antagonistes. Merci à Gamal Abidjan.
Merci.
Merci à Rayad Chebbi. Merci à Pierre-Henri. Merci à Marjorie Kéters. À très bientôt, au plaisir. C'était un plaisir vraiment. Là,
partagez l'argent.
Belle émission.
Partagez. Et la phrase partagez. Et vive Marseille.
Ouais. Allez l'OM.
Allez l'OM.
2-0. Allez le PSG.
C'est dur.
C'est dur. À la réalisation, c'était Solal. Merci à lui. Time Sport avec Bilal. Là, c'est tout de suite dans quelques minutes. Vanessa, 21h. Quant à moi, à demain avec autant de plaisir. Mais surtout,
on ne lâche rien.
Retrouvez les informés tous les jours de 19h à 20h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.